get out. I'll get out of all your boxes. I'll get out. You can't hold me in these chains. I'll get out. Father, free me from this bondage. Knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution. Preventing me from freedom, maintaining your pollution. I won't support your lie no more. I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live. I won't be compromised no more. I can't be victimized no more. I just don't sympathize no more. 'Cause now I understand. You just wanna use me. You say love then abuse me. Never thought you'd lose me, but how quickly we forget that nothing is for certain. You thought I'd stay here hurting. Your guilt trip's just not working, repressing me to death. 'Cause now I'm choosing life, yo. I'll take the sacrifice, yo. If everything must go, then go. That's how I choose to live. Okay, we're getting there. At least I had a chunk. Okay, it's how I choose to live. No more compromises. I see past your disguises, blinding through mind control, stealing my eternal soul, appealing through material to keep me as your slave. But I'll get out. You get, oh, and you ain't seen nothing yet. Oh, I don't care if you're upset. I could care less if you're upset. See, you don't change the truth, and your hurt feelings no excuse to keep me in this box. Psychological locks, repressing true expression, cementing this repression, promoting mass deception so that no one can be healed. I don't respect your system. I won't protect your system. When you talk, I don't listen. Oh, let my father's will be done. And just get out. Oh, just get out of all this bondage. Just get out. Oh, you can't hold me in these chains. Just get out. Oh, these traditions killing freedom. Knowing my condition is the reason I must change. Just accepted what you said, keeping me among the dead. The only way to know is to walk, then learn, then grow. But faith is not your speed, or you'd have everyone believe that you're the sole authority. Just follow the majority, afraid to face reality. The system is a joke, or you'd be smart to save your soul. Oh, and escape this mind control. You spend your life in sacrifice to a system for the dead.
Hello tout le monde.
Salut.
Salut.
Bonjour.
Alors, sans transition, on va un petit peu changer l'ambiance sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8 dans le cadre de ces 20 ans de Dégenré, en vous invitant maintenant à écouter ce qu'on vous a préparé, ce qu'on a concocté pour vous. Alors du coup, là maintenant, on va parler pendant une heure de violences intrafamiliales, de violences de caractère sexuel intrafamilial. Voilà, on va parler d'inceste en fait aujourd'hui. Et maintenant, et du coup, il va y avoir plein de choses, qu'on va raconter plein de choses, on va aborder plein de thématiques différentes, mais notamment, il va y avoir aussi des témoignages, tout ça. On va parler de nos vies, quoi. On n'est que des personnes concernées par ces questions-là, qui nous sommes réunis, on est quatre aujourd'hui.
Et puis du coup, on va aussi vous présenter le Club Dorothée, dont on fait partie.
Voilà, c'est ça.
Et le morceau que vous venez d'écouter, c'est Laurie Neal, « I Get Out ». Et dans ce morceau, elle parle de comment elle se défait de ses chaînes, elle se casse et elle refuse de se taire. Et c'est un peu une référence à une vieille émission de Dégenré, dont on vous parlera un petit peu plus tard.
Exactement.
Et pour clarifier tout ça, on va commencer par une petite définition de l'inceste. Alors, l'inceste, c'est des abus sexuels sur des enfants, par des personnes, adultes ou enfants, dont ils sont dépendants et en qui ils ont confiance. Ces abus s'inscrivent dans le quotidien, que ce soit dans les familles nucléaires ou élargies, les milieux scolaires et sportifs, les institutions médico-sociales ou d'aide à l'enfance. Dès tout petit, petite, on intègre des rapports de domination dans la sphère privée. Et comme dit Dorothée Ducy, l'inceste est un structurant de l'ordre social, le premier apprentissage de la domination. Et du coup, tout comme on parle de culture du viol, nous on parlera de culture de l'inceste.
Et du coup, bah, on peut préciser que du coup, l'inceste, c'est, on l'étend pas seulement, on n'en parle pas seulement dans le cadre de la famille nucléaire, ou en tout cas de la famille avec un lien de sang entre les personnes. C'est aussi une question de, en fait, de à qui, en qui l'enfant place sa confiance. Et en fait, à partir du moment où la personne en qui l'enfant a placé sa confiance dépasse ses limites, dépasse le cadre, et ben voilà. Pour nous, ça devient de l'inceste, parce que c'est la notion de confiance de l'enfant qui a son importance.
De confiance et de dépendance.
Oui, de dépendance, ouais.
Et du coup, nous on fait partie du club Dorothée, on avait un peu envie de vous raconter c'est quoi l'histoire de ce groupe.
Ouais. Et alors, bah, du coup, pour raconter l'histoire, comment ça a démarré, et ben, en fait, on s'était retrouvés à une soirée avec une pote qu'on salue très très fort, c'est avec qui on parle.
Oui.
Et à une soirée, du coup, et on s'était croisés plein de fois dans la vie, on n'avait jamais trop discuté, et il y avait un truc, on sentait que ça serait vachement bien qu'on discute ensemble. Et du coup, et ben, pendant cette soirée où c'était vraiment pas l'ambiance, on avait discuté pendant un certain temps. Et on avait discuté de nos vies. Et en fait, il se trouvait qu'on avait du commun en fait, sur nos vies et autour des questions de l'inceste. Et en fait, on s'est dit, ce serait vachement bien de libérer la parole. Ce serait vachement bien de faire quelque chose par rapport à ça. Et voilà. Et du coup, on s'était dit... On n'a qu'à essayer de faire quelque chose, on n'a qu'à essayer de lancer une première initiative, de faire quelque chose qui va permettre de créer un groupe peut-être, et on va voir vers où ça va aller, mais en tout cas, créer quelque chose qui va permettre de libérer les paroles.
Et ça, c'était quand ?
Et ça, c'était avant le confinement, je ne me rappelle plus exactement l'année, mais c'était...
Pendant le confinement, non ?
Ou non, pendant... avant, je crois que c'était avant, juste avant, c'était... Ouais, ça devait être la fin de l'année, vu que les confinements, ça a commencé en 2020, fin 2019, je crois.
Alors, oui, c'est possible. Mais du coup, vous avez fait une proposition.
Ouais, on avait fait une proposition pour un premier événement. Un premier événement, du coup, un brunch à la BAF.
Qui a eu lieu à la BAF.
Voilà, c'est ça. Je ne me rappelle plus tous les détails de comment, quoi, qu'est-ce qu'on a fait, mais en tout cas, je pense qu'on a... On en a parlé autour de nous, on a dit « Ouais, si tu connais des gens, on aimerait bien... » Du coup, on est allé à une réunion de la BAF, on a réservé le lieu pour pouvoir se retrouver là. On a fait passer le mot autour de nous, des gens qu'on connaît, tout ça. Si tu connais des gens, vas-y, invite-les. On est... Voilà.
Et c'est là, du coup, ouais, où on est plusieurs à avoir rejoint le truc et
c'est
tout ça.
C'est ça, ouais. Voilà. Et puis, paf. On s'est retrouvés à se faire des réunions un peu régulièrement. Et du coup, au fur et à mesure, des personnes... Enfin, vous êtes venus, quoi. Et on a beaucoup discuté de comment on fait, et qu'est-ce qu'on fait, et pourquoi on le fait.
Et du coup, à ce brunch à la BAF, on s'est retrouvés, on n'était vraiment pas beaucoup. Mmh. On a notamment écouté une émission de podcast qui parle d'inceste. Et du coup, bon, voilà, discussion, etc. Et du coup, pour vous expliquer un peu l'histoire de ce nom Club Dorothée, pourquoi est-ce qu'on s'appelait le Club Dorothée, c'était un peu une blague, en fait, d'un camarade. Parce que du coup, on parlait de deux auteurs qui causent d'inceste dans leur écrit, Dorothy Allison et Dorothée Ducy. Et du coup, ça a été un peu la blague. Bon, bah, on pourrait monter un club et ça s'appellerait le Club Dorothée.
Voilà.
Et voilà, du coup, ça, c'est un peu resté après dans... dans les réunions et le En fait, le Club Dorothée, c'est, je dirais, avant tout un groupe de parole et qui a aussi proposé d'organiser des trucs publics.
Et oui, le Club Dorothée, du coup, on s'est réunis une première fois, on était 5. À chaque fois qu'on se réunissait, c'était des longs moments. On prenait à chaque fois une demi-journée, en fait. Souvent, on faisait un repas aussi, un moment ensemble. Et au début, en fait, on se voyait une fois par mois, une demi-journée, pour parler de ça. Et on avait un peu séparé le temps en deux temps. Il y avait un premier temps qui était plus un partage de nos vécus et un deuxième temps qui était plus sur soit réfléchir à des concepts théoriques, soit assez vite à parler des actions qu'on voulait mettre en place. Et moi, ce qui m'a marqué, par exemple, c'est ce premier temps, on a commencé par chacune. À chaque réunion, il y avait une nouvelle personne qui prenait le temps de raconter son histoire, de son enfance à l'âge adulte sur ces questions d'inceste, et de vraiment prendre le temps de détailler, d'avoir des questions posées. Moi, je me rappelle de l'écoute, en fait, que les unes les autres, on avait dans ces moments-là. Et de cette importance de ces moments où, en fait, pendant 2 heures, t'as le temps, en fait, de raconter qu'est-ce qui s'est passé pour toi, comment ça a réagi, et surtout aussi de parler de oui, l'enfance, mais aussi après, en fait. Après les silences de la famille, après quand tu dis des choses, de parler jusqu'à maintenant, et que c'est aussi des grands moments de renforcement. Et du coup, on a fait ça, chacune racontait. Voilà, on savait, ben, la prochaine fois, ok, ça, voilà, ça va être telle personne, ou en tout cas. Et puis après, ces premiers moments, quand on avait chacune raconté, pris le temps pendant plusieurs heures, après, c'est devenu plus des moments de, je vais dire, de groupe de renforcement, où après, on savait plein de choses. On savait où les unes les autres, on en était dans nos histoires, où on en était dans la continuité de ces histoires de qui c'est qui était en train de vouloir rebriser une énième fois le silence sur l'inceste dans sa famille. Qui c'est, ben, là, il y a un Noël, du coup, ça pose des questions de qui va aller à Noël, qui va pas y aller. Là, il y a un coup de fil d'une tante, qu'est-ce que je fais? Je lui réponds, je lui réponds pas. Et c'est, après, c'était vraiment des moments où on continue à se voir sur vraiment se renforcer les unes les autres. Ouais, vas-y.
J'allais dire que en fait, le fait de faire ça, ça a aussi donné lieu à des discussions aussi, parce qu'on s'est dit comment on fait, est-ce qu'on on ouvre le groupe, est-ce qu'on fait quelque chose de large ou pas, et en fait, on est assez vite venu à la conclusion que c'était plutôt bien de se retrouver entre nous, plutôt de développer l'affinité, parce qu'on se connaissait pas forcément beaucoup à la base, et du coup de plutôt rester entre nous et de développer l'affinité et la confiance pour pouvoir discuter de notamment de nos vécus et tout ça. Et que voilà, c'est juste que voilà, c'est une chose qu'on s'est autorisé à faire aussi. On est enfin.
Parce qu'on s'est retrouvé un petit peu avec ce truc de à la fois l'envie de causer et d'en causer autour de nous, et que du coup aussi trouver d'autres personnes à se reconnaître là-dedans, mais aussi avec un truc de bah en fait pour pouvoir parler et être en confiance pour développer des trucs. Et ben c'est un peu compliqué si on est plein, c'est un peu compliqué si on se connaît peu. Et du coup, ça a été un peu aussi là-dessus qu'on a décidé d'avoir un groupe fermé de 5-6 personnes.
Oui, et j'ai l'impression que c'est ça qui nous a amené aussi à aller vers plus des actions après, quoi. Pour revenir, du coup, il y avait toujours un grand temps, du coup, comme ça, en début de réunion, et on avait toujours un deuxième temps. Il me semble vraiment qu'on l'a fait dès le début, où on avait un deuxième temps au début qui était plus pour approfondir des théories qui... Et moi, les sujets que je me rappelle, il y a eu la définition de l'inceste, où avec des gens du coup qui bossent un peu dessus avant, à trouver des définitions, qui parlent, des textes qui parlent. Et il y a eu une autre réunion que moi qui m'a marquée, qui était sur l'amnésie traumatique. Et où je sais que moi, personnellement, ça m'a permis vraiment de rebosser ça et de prendre conscience de plein de choses. Enfin, de prendre conscience de dire, Ah ouais, en fait, j'ai fait 3 AVC et là, je me rends compte qu'en fait, par exemple, en fait, tout ça, ça vient vraiment esquinter le cerveau et que j'avais beaucoup plus de chances de faire des AVC. Enfin, vraiment de faire des liens sur plein de choses aussi, pour les unes, pour les autres. Cette question d'amnésie traumatique. Et j'ai l'impression quand même assez vite, on a eu l'envie aussi de faire des actions collectives et comme tu disais, notamment le fait qu'il y ait d'autres gens qui nous disaient « Ah, mais c'est super, moi ça m'intéresserait » et qu'on s'est dit « Ben, nous là, on va rester fermés », ça nous a aussi amené l'envie de faire un autre moment collectif. Et puis j'ai l'impression que du coup, on se sentait aussi... Enfin, le groupe, c'était une force, en fait, aussi. On se rendait compte de la force que ça nous amenait aussi pour pouvoir porter des choses collectivement et faire bouger des choses, en fait.
Carrément. Et ouais. Du coup, c'est là où on a fait une première proposition qui était, du coup, le 14 février 2021.
Tout à fait.
C'est ça.
Parce qu'on se voulait aussi... Enfin, je pense, dans les premiers moments où on s'est vus, du coup, ça, c'était fin 2020... On se voulait aussi un peu comme un groupe politique, c'est-à-dire qu'on replaçait la question de l'inceste aussi dans cette société, aussi par rapport à l'analyse qu'on avait de cette société patriarcale. Et du coup, donc on l'a appelé la journée du 14, le 14 février. Et en gros, on était dans cette période un Covid, etc. Du coup, on n'a pas pu faire une grosse com, parce qu'on n'était pas censé organiser des événements publics à ce moment-là. Mais en tout cas, on a réussi à réserver une salle dans une maison des habitants. Du coup, aussi sortir un peu de nos lieux plus affinitaires d'organisation politique et essayer de rendre ça un peu plus public. On a dû faire une petite com parce que Covid, etc. Mais en gros, il y a une quinzaine de personnes qui sont venues. Et nous, on avait préparé ça on avait mis beaucoup de ressources à disposition. Des brochures, des bouquins, des listes de podcasts, d'émissions de radio. Et puis on accueillait un peu comme ça individuellement les personnes pour dire qui on était et pourquoi on faisait ce moment-là. Et puis on a eu un temps en grand groupe.
On a eu un temps collectif, ouais.
Où l'idée c'était de se dire voilà, on est là, qu'est-ce qu'on aurait envie en fait, ça serait quoi nos imaginaires, de quoi on aurait envie pour faire suite. Il me semble que c'était un peu ça la question qu'on se posait au moment de ce grand groupe.
Et aussi, c'était aussi la question de faire en sorte que les personnes se rencontrent, si elles ont envie de continuer, de développer d'autres trucs, ou alors de juste, il y a une affinité, du coup, elles veulent continuer à se rencontrer, à parler entre elles et tout, ce genre de choses. Il y avait aussi ça, faire du lien entre les gens. Et je me rappelle qu'aussi, on s'est dit qu'on n'allait pas forcément marquer une mixité précise pour cet événement. On s'était dit qu'on ne voulait pas forcément être dans une mixité précise, on s'est dit qu'on voulait être largement ouvert. Et accessible aussi en dehors de nos milieux habituels, parce qu'en fait, on se disait que ce genre de questions, ça concerne beaucoup de monde, en fait, et qu'il y a aussi, disons, des petits garçons, en fait, qui sont aussi victimes de toutes ces choses. Et du coup, voilà, on avait envie que ce soit possible de venir.
Mais la mixité, en fait, qu'on avait choisie, c'était des personnes incestées.
Voilà, c'est ça. Plutôt, oui, voilà, c'est plutôt ça. Uniquement c'était des personnes concernées, c'est
voilà,
ça.
Des
mais pas des questions de genre, voilà.
Sachant que au-delà de incester, on avait quand même aussi un truc de se dire, comme on parle de culture de l'inceste, c'était des personnes incestées, aussi des personnes qui ont grandi dans des familles incestueuses, on va dire, ou dans un cadre où en fait l'inceste était présent. Ouais, pour la petite précision. C'est vrai. Du coup, ce moment-là, il a donné naissance du coup à ce qu'on appelait la liste du 14, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'imagination.
Mais du coup, ouais, on a créé une liste mail, quoi. Ça nous a permis de créer une liste mail. Et par la suite, cette liste mail, elle a aussi permis d'autres trucs. C'est-à-dire que via ce petit outil, il y a eu des propositions pour se retrouver. Alors, il y a eu une proposition pour regarder un film ensemble. Mm-hmm. Le film, c'était Les Chatouilles, un film qui est sorti en 2018, qui nous a beaucoup marqués.
Ouais. Et il y a eu plusieurs petites propositions, dont des personnes qui ont aussi commencé à avoir un peu le même genre d'initiative.
Ouais, d'autres groupes d'autosupport, arriver en tout cas à se recapter autour de la question de l'inceste.
Et puis un lien aussi vers un pad pour partager les ressources qu'on a aussi. Tout plein de brochures, tout plein de bouquins, tout plein de podcasts, tout plein de choses en fait autour de ça.
Et en tout cas, du coup, moi, je me dis, ah tiens, faisons un peu de com. Donc la liste du 14, c'est toujours possible de la rejoindre. Cette liste mail, du coup, qui est en non-mixité, personne concernée par l'inceste, avec, du coup, cette définition de l'inceste qu'on donne et ce truc de, comme tu as rappelé, M, que l'inceste, c'est aussi vivre dans une famille où l'inceste se pratique, quoi. Mmh. Et en tout cas, c'est possible d'envoyer un mail à journeedu14@herbefolle.org, herbefolle au pluriel.
Tout yes. En petit, tout attaché.
Tout à fait.
Yes, trop bien. Et du coup, là, on est rendu après le 14 février.
Et ouais. Bah en fait, c'est même que j'ai envie de faire le lien. C'est-à-dire que c'est pendant cette journée du 14 février, on s'est dit, bientôt, ça va être le 8 mars. Et du coup, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour le 8 mars.
Ouais, exactement. Et en fait, du coup, il y a eu cette journée-là. Et il y avait aussi tout le contexte autour de ça. Que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au moment de MeToo Inceste. Il y avait un gros battage médiatique. Du coup, il y avait une grosse libération de la parole, mais il y avait aussi un gros battage médiatique sur la pédocriminalité, avec tout un tas de spécialistes féministes, ou prétendument féministes en tout cas, mais qui parlaient beaucoup de lois et de répression. Et du coup, ça nous a donné envie, pour le 8 mars, de poser nos mots dessus, de faire entendre nos enjeux autour des questions de l'inceste. Du coup, c'est pourquoi est-ce qu'on trouve que l'inceste, il est systémique ? C'est quoi les oppressions qui traversent ce truc-là, et aussi la question en fait du rapport avec l'institution judiciaire. Du coup, voilà, ça a été assez speed et brassant d'écrire ce texte. Mmh. Du coup, il a été fait un peu dans l'urgence, mais aussi avec ce sentiment un peu de... En fait, c'est important de faire ça dans ce contexte-là. Et le texte, il s'appelle « Deux ou trois choses sur l'inceste » et c'est en référence du coup à un texte de Dorothy Allison qui s'appelle « Deux ou trois choses dont je suis sûre ». Et ce texte, il a été du coup lu le 8 mars 2021.
Devant le musée de Grenoble. Exactement,
voilà. Et du coup, le texte, il est notamment dispo sur CRIC, journal. Aidez-moi.
Site internet, site d'info. Ouais.
Et dans nos petites actions du Club Dorothée, il y avait un autre truc dont on aimerait parler, mais c'est toi Claire qui avait eu l'idée, alors
Oui, c'est qu'à un moment on a décidé de faire un rituel où en fait moi j'étais allée pour le jour de pour janvier en fait le nouvel an tout ça, j'étais allée à la fontaine ardente qui est du coup vers vers le Guas. Alors la fontaine ardente en gros c'est une sortie de gaz à côté d'un ruisseau et où du coup il y a un feu un peu perpétuel. Et moi, j'étais allée déjà parce que les questions de rituel, ça me parle. Et j'étais allée là-bas pour brûler des petits papiers pour la nouvelle année. Et effectivement, quand j'y suis allée, de nuit, au milieu de la neige, enfin, c'était l'ambiance, quoi. J'ai tout de suite pensé au club d'eau. Et je me rappelle, Mérins, qu'on s'est vus pour manger ensemble chez moi. Et que je t'en ai parlé. Et tout de suite, on s'est dit, oui, on veut porter ça à l'intérieur du club d'eau. Et je pense, moi, d'autant plus que c'était un moment où, en fait, je venais un peu de prendre des distances avec plein de gens de ma famille, un peu boucler des choses autour de l'inceste, où pendant un an, j'étais à fond à brasser ça, à essayer de faire bouger dans la famille des choses. Et que là, c'était un peu le moment où je fermais un peu tout ça et je sentais le besoin d'être dans ma vie présent et de penser au futur, sans tout le temps brasser le passé. Et du coup, pour moi, c'était vraiment l'idée de aussi clore quelque chose personnellement et de, par rapport à l'inceste, et de faire ça avec vous, quoi. Enfin, dans ce groupe-là. Et dans quelque chose aussi de joyeux. Et du coup, j'étais hyper contente qu'on porte ça. Mais je n'ai pas pu y aller.
Elle se renie des choses.
Voilà.
Et non, finalement, on était trois... Ouais. Pouvoir faire ça avec toi, M, et toi, Cynthia. Et, mais moi, en tout cas, c'est un moment qui est bien resté dans ma mémoire. En tout cas, on avait prévu, on a calé ça en fin de journée, c'était l'été. C'était début juin. En fin de journée, hop, on a pris la bagnole, on est parti. Alors, on avait toutes bien pris un peu de nourriture.
Ouais.
Enfin, je crois que ça, c'était
un petit peu, ouais.
C'était important. Enfin, on est arrivé avec la
bouffe. Faire plaisir, quoi.
Et du coup, la Fontaine Ardente, c'est un endroit où déjà, pour y arriver, on descend.
Ouais.
On descend plein de marches.
Escarpé un peu.
Ouais, c'est escarpé. Puis on arrive et il y a une petite rivière en contrebas. Et puis cette petite. Petit truc installé, hein. Je veux dire, il y a des tuyaux de gaz et tout, c'est pas juste des échappées de gaz comme ça, maintenant c'est un peu installé, qu'il faut rallumer un peu de temps en temps, c'est pas, enfin, bon, il y a un petit côté, non mais il y a un côté hyper beau, mais c'est aussi, enfin voilà, il y a...
C'est moins impressionnant que ce que je pensais en tout cas quand on m'en a parlé, mais c'est cute, voilà.
Et en vrai, on a eu de la chance parce qu'en fait, on était seuls.
Ouais.
Il n'y avait personne d'autre, quoi.
Au début,
ouais. Après, il y a des gens qui sont arrivés, mais ils n'ont pas resté trop longtemps.
Ouais. Non, ils ont capté que...
C'est
pas le moment. C'est pas le moment. Du coup, on a commencé par bien manger. Moi, ouais. Mon souvenir, c'est ça. On a bien mangé. Et après, on s'est lancé dans des petits jeux d'écriture. Mm. On a écrit des petits papiers, etc. Et puis, on a aussi écrit des mots pour nos camarades qui nous tenaient à cœur et qui n'étaient pas présentes.
Mmh.
Et puis, pour toutes les personnes concernées. Et moi, j'avais ramené des vieilles plantes sèches pour brûler tout ça. Du coup, voilà,
On a bien brûlé tout ça.
On a bien brûlé tout ça. On a mis tout au feu et après, même, on a chanté.
Ouais.
Carrément.
Ouais, on a fait des petits chants... des petits chants en... Comment on dit, là? Perdu le mot.
En canon.
C'était tout ça. À fait. Ouais, c'était ça. Voilà. Et puis on est rentré chez nous.
Mm.
Il était déjà tard.
Mm.
Et puis ça c'était au mois de juin 2021.
Exactement, ouais.
Et du coup après le club d'eau, on a continué à se voir, etc. De manière un peu plus
espacée
et chaotique. Et puis jusqu'à
il y a pas si longtemps finalement.
Ouais.
Et du coup, ouais, voilà, il y a eu ce contexte un peu de, on s'est un peu vu. Et puis, il y a quelques temps, il y a eu cette proposition des 20 ans de dégenrés. Moi, ça me donnait envie de proposer quelque chose. Et en même temps, bah, vous me manquiez, le club Dorothée. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est une occasion de reprendre la parole, en fait. Et du coup, bah, c'est la première fois aussi qu'on cause publiquement du club d'eau.
Ouais.
Son petit nom, le club d'eau. Et bah voilà, on vous profite pour vous faire un petit bilan en live, finalement. Voilà. Et moi, ça m'a fait un peu le parallèle avec l'écriture du texte du 8 mars, en fait, 2021, où c'est un moment qui a été préparé un peu en speed. Ça fait un peu peur, ça met dans une position de vulnérabilité, parce que ça touche à l'intime et tout ça. Mais l'intime est politique, comme dirait l'autre.
Et puis en même temps, on est ensemble et on est fortes.
Hey.
Et voilà, du coup, c'est ça. Du coup, il y avait ce truc de, à la fois ça fait peur et à la fois, bon, bah, en fait, on a besoin que ça existe, on a envie que ça existe, du coup, nous voilà.
Et puis on parle de ça aussi pour, ça peut paraître facile, enfin, on peut se demander pourquoi parler de tout ça et tous les aspects de comment on a pensé les choses et tout, mais en fait, c'est aussi pour se dire, ouvrir les imaginaires de ce qu'on peut faire autour de ces questions-là et en espérer que, ce soit des choses qui essaiment, quoi, toujours.
Tout à fait. Et ben, du coup, sur ce, on va se faire une petite pause musicale, non ?
Ouais,
grave.
On va s'écouter le morceau de Rachel Allison et Meryl, qui s'appelle Ma Petite. Pour moi, c'est un des rares morceaux qui cause de l'inceste les yeux dans les yeux et qui se positionne clair et net. Enfin, moi, c'est un morceau qui m'a fait un bien de ouf quand je l'ai écouté pour la première fois.
Mmh.
Et je pense que ça a fait ça à pas mal de gens. Voilà.
Oui.
Bonne écoute.
Oh yeah. Ma petite dehors, c'est comme... Chérie, parle, demande de l'aide.
Premier but à moi qui apprend fou, c'est consentement. Puisque pas tout le monde ça poco évident. Et comme personne ne peut pas dire autre livre franchement. Si ça t'en donne un sac plein de chaises, attends mes boys. Ma petite dehors, c'est quand j'aime mieux à t'offrir ce silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rendrai justice avant les cops. Parle-moi si ton ton te touche. N'aie pas peur, dis-moi, il n'a pas le droit. Si jamais ces niamas se touchent, quand je suis pas là pour toi, quand je reviens, dis-moi.
Tu n'ouvres la bouche que pour parler ou quand je te nourris. Tu sais, les monstres ne sortent pas qu'à Halloween. T'es ma chair, t'es mon sang. Si te vole ton innocence, la mort c'est la rançon. Éduquez vos fils, la jupe c'est pas un risque. Même voyez, font écorcher le pubis. Dis-moi à quoi ça sert d'appeler la police. Si je finis là, mais rien va gabriner. Les grandissent, mais jamais ne guérissent. Domineur, ils chantent comme R. Kelly. Ok.
Vous écoutez toujours Radio Campus Grenoble 90.8 et c'est toujours les 20 ans de Déjoré et vous êtes sur le plateau de L'Inceste. Du coup,
ok.
Et du coup, juste avant, on parlait de la création du Club Dorothée, de pourquoi, qu'est-ce que ben, on l'a créé. Mais maintenant, on aimerait vous partager avec vous pour qu'est-ce que ça nous a fait, en fait. Tout simplement, de créer ce petit groupe de paroles et tout ça. Et bah, du coup, j'ai qu'à commencer par cette question. Moi, j'ai trouvé ça hyper, hyper enrichissant et renforçant parce que, en fait, personnellement, j'ai pas forcément beaucoup appris à mettre les mots sur les choses que je peux ressentir ou la vie, quoi. Et que ça a été une de mes techniques de survie. Et du coup, ben là, en fait, on se retrouvait, on évoquait tous ces concepts, tous ces bouquins, tous ces trucs. Et je me dis, c'était comme manger la petite pilule rouge, là. C'est là, ah ouais, ben oui. Non, oui, c'est... j'aurais pas mieux dit, en fait. et voilà, et c'était trop bien. Et puis, ouais, ça fait aussi du bien de faire quelque chose de cool qui permet de libérer la parole et tout. Du coup, voilà, je dirais surtout ça, m'a surtout fait ça.
Et ben ouais, moi il y a un côté un peu pareil sur la arrêter de faire du déni. Je crois que c'est ça. J'avais, je pense, un petit peu avant que toi, Cynthia, tu proposes ce brunch là sur les questions d'abus sexuels dans le milieu intrafamilial, je commençais déjà un petit peu à me mettre face à cette histoire-là, mais le club d'eau, il a vraiment accéléré et vraiment mis en marche quelque chose sur... arrêter de faire du déni sur ce qui m'est arrivé, et puis surtout entamer des choses pour me réparer. Et rendre visible ça au sein de ma famille. Enfin, ça a été... Pour moi, tout ça, c'est... arriver vraiment aussi grâce au club d'eau, quoi. C'est cette mise au travail Et le fait que, ouais, enfin, aujourd'hui vraiment, enfin, en tout cas sur les 2 ans que le Club d'eau a déjà passé là, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie vis-à-vis de l'inceste. Et je crois que c'est le fait de s'être retrouvés et d'être ensemble, enfin, sur la, enfin, ce truc d'être père, quoi, sur cette question-là. Et puis, ouais, se supporter.
Alors moi, c'était pas un moment où... Enfin, c'était des choses que j'étais complètement en train de brasser le moment est arrivé le brunch où, avec ma psy, je travaillais en EMDR sur des scènes d'inceste de mon frère, quoi, sur moi. Et en même temps, il y avait eu ce truc un peu fou où j'étais un peu dans une fiction là où j'étais, j'avais vu ma tante sur le lit de sa mort, où je lui avais promis de faire péter le silence de l'inceste dans la famille. Et du coup, moi, j'ai l'impression que ça m'a surtout donné une énorme base, en fait, de pouvoir que vous soyez là, une base de pouvoir faire, en fait, toutes ces choses, de reprendre contact avec un oncle qui avait coupé contact avec toute la famille en dénonçant l'inceste, de tout ça. Et j'aurais du mal à voir qu'est-ce qui était lié au groupe, qu'est-ce qui était lié à mon travail avec la psy. Et aussi, pour moi, la série d'émissions Ou bien une nuit qu'on a écouté en fait au brunch, on a écouté, je sais plus si on l'a écouté en entier, mais on en a écouté
un morceau en entier, émission en entier.
Ok, on l'a écouté et moi je suis rentrée chez moi et le soir j'en ai écouté 3. Le lendemain j'ai écouté les 3 autres. Enfin, où en fait je me suis fait les 6 émissions d'un coup.
Wow.
C'est juste, j'étais dans un moment où la moitié de ma vie c'était du travail en fait personnel et autour de tous ces trucs là. Et du coup j'ai du mal à voir ce qui est lié au groupe ou pas. Par contre, les choses que je me rappelle, c'est que ça me donnait une force de savoir en fait que j'allais vous revoir. Et qu'à des moments, il y a eu des trucs durs, trash même avec ma famille, mais que je savais que c'était un endroit où j'allais pouvoir parler de ça. Et aussi, le fait de me dire, OK, j'essaye de faire avancer des choses dans la famille et en même temps aussi d'avancer des choses de façon plus globale, avec vous, avec le texte du 5 mars, avec toutes ces choses-là.
Du 8 mars.
Voilà, et j'ai l'impression qu'à un endroit, c'est là où je vais peut-être pleurer, c'est quelque part, à plein d'endroits en fait, c'est un moment où j'ai coupé des liens avec ma famille biologique, où j'ai dû couper des liens avec une famille amicale avec qui j'avais construit une autre famille, et à un moment... Pour moi, c'était aussi une famille, en fait, quand je venais dans le groupe et que je vous retrouvais, c'était vraiment une base pour pouvoir avancer par rapport à ces questions et du coup, de façon aussi générale. Et je voudrais juste dire un truc, parce que je ne sais pas si vous, ça vous a fait ça, mais moi, je sais que la première fois où j'ai... Quand j'ai dû parler, en fait, de mon récit, par exemple, je me rappelle... que j'avais des craintes parce que je me disais que j'étais pas légitime. J'étais pas légitime de me dire « Ok, t'as vécu de l'inceste. » J'étais à me dire « Ok, en fait, c'est arrivé quelques fois. Essentiellement, c'était d'autres violences, ce qui s'est passé. T'étais petite, t'as pas beaucoup de souvenirs. D'accord, il a mis le mieux viol dessus, mais bon... » Enfin, et ça m'a fait aussi un bien fou de prendre ce temps-là de 2 heures à raconter tout et de remettre en fait des pièces de puzzle dans le bon ordre en fait. Et voilà, et où je sais que je ne vous l'ai pas dit, je ne me sentais pas légitime, mais je pense que ça m'a permis ça aussi le groupe. À un moment, je savais depuis plus de 10 ans en fait que je m'étais fait violer par mon frère, mais en fait c'est à ce moment-là que j'ai mis le mot inceste. Et que maintenant, j'ai aucun problème, en fait, à l'utiliser et à parler du fait que, ben oui, j'ai été incestée, en fait, par mon frère. Et je pense que le groupe m'a vraiment permis ça.
Waouh.
Moi, du coup, je vais pas réussir à parler comme ça. Et j'ai écrit quelque chose parce que voilà, ça m'aide et tout. Du coup, je vais lire un petit truc. Ça a avant tout permis que je me sente moins seule autour de ces questions, des questions de l'inceste. Ça a été trouver un espace pour prendre le temps de brasser le brassant, de parler des trucs pas jolis, de s'organiser à plusieurs pour briser le tabou, ouvrir des voies à la parole, se reconnaître plein avec un goût amer de colère dans la bouche. Et ça a été parler, et écrire, et chanter, et brûler, et pleurer, de doute et de frustration, mais aussi de soulagement. Ça a été tisser des liens, sentir la possibilité d'un réseau, construire une force collective, lutter ensemble. Pour moi, le Club d'eau, c'est un cadeau. Un cadeau que l'on se fait à nous, ici, dans ce studio, et que je crois on voudrait transmettre. Alors, merci camarades. Merci pour cette précieuse lutte.
Merci à toi.
Merci à vous.
Et hop, on commence à ouvrir les vannes, là. Ouais, c'est marrant. Alors, on va continuer, parce que là, on propose une petite lecture de texte. Une personne qui nous fait toujours beaucoup d'émotions.
Et c'est peut-être l'occasion de présenter Dorothy Alison, non?
Ouais, tout à fait.
Ok. Donc, c'est un exercice compliqué, hein. J'adore cet auteur. Je pense qu'on est plein ici à adorer cet auteur. Dorothy Alison, c'est une activiste et écrivaine féministe qui a grandi dans les années 50 dans la classe ouvrière blanche de Caroline du Sud, aux États-Unis. Lesbienne pro-sexe, ses écrits mêlent et démêlent classe, genre et sexualité. Pour moi, c'est une auteure qui parle aux tripes. Donc là, on va vous lire des petits extraits. Choisi de deux ou trois choses dont je suis sûre, qui a été écrit en 95 et qui a été traduit en français il y a 2 ans environ. Les extraits qu'on va vous lire, c'est de la traduction DIY, parce que du coup, il y a eu 2 traductions. Dans ce texte-là, elle parle des femmes de sa famille, elle parle d'inceste, de violence et de détermination.
Je vais vous raconter la sale histoire. Pendant des années, je me suis convaincue que j'étais invulnérable, un animal avec une force animale ou quelque chose de pas humain du tout. Mais je disais aux gens, je prends les coups comme un mur de briques qui ne tombe jamais, qui ne sent jamais rien, qui ne bronche jamais ou ne se souvient jamais. Je suis une seule femme, mais je porte dans mon corps toutes les histoires qu'on m'a racontées, toutes les femmes que j'ai connues, les femmes qui ont subi des blessures jusqu'à ce qu'elles ne disent qu'elles ne pouvaient plus du tout ressentir la douleur. Voilà la sale histoire. Voilà le mensonge que je me suis raconté pendant des années. Et avant que je façonne des histoires sur du papier, je n'avais pas fait le tri dans tout ça, vu où le mensonge finissait et une vie déglinguée subsistait. Mais ce n'est pas comme ça que je suis censée le raconter. Je suis seulement censée raconter une histoire à la fois. Une histoire. Toutes les écritures dont j'ai entendu parler disent la même chose. Prends une histoire et suis-la jusqu'au bout. Début. Milieu, fin. Je ne fais pas ça. Je ne le fais jamais. Derrière l'histoire que je raconte, il y a l'histoire que je ne raconte pas. Derrière l'histoire que vous entendez, il y a celle que j'espère pouvoir vous faire entendre. Derrière mon col boutonné avec précaution, il y a ma nudité. La lutte pour trouver des habits propres, de la nourriture, du sens et de l'argent. Derrière le sexe, il y a la rage. Derrière la colère, il y a l'amour. Derrière cet instant de silence, il y a des années de silence.
Et voilà, Dorothy Alison. Non, mais voilà, Dorothy Alison, elle a quand même ce truc, comme t'as dit, ce truc de ça prend les tripes, enfin, c'est puissant ce qu'elle écrit. C'est trash à plein de moments, mais en fait, c'est hyper renforçant, quoi.
Eh bien, maintenant, on a eu envie de se prêter au jeu proposé par Desgenrés, qui était de remettre une ancienne émission au goût du jour. Et du coup, pour ça, on allait repêcher une vieille émission de 2011 qui s'appelle Féminisme et justice et qui parle de notre rapport à l'institution judiciaire en tant que féministe. On a choisi des extraits qu'on a mis en écho avec le texte « Deux ou trois choses sur l'inceste » dont on vous a parlé plus tôt. Ça dure environ 10 minutes et du coup, ça a été monté avec des samples de morceaux de Billy Breloc, qui est une rappeuse de Nanterre que j'adore et qui est à mon sens une des meilleures poètes que je connaisse. Les samples sont issus de son album Guerre de l'Ouest. Bonne écoute.
Patriarca, patrie, patriarca, patrie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Alors vous êtes bien sur Radio Kaleidoscope 97 FM, donc avec une émission de Dégenré sur les liens qu'on pourrait faire entre nos luttes féministes et notre rapport à la justice. Alors l'idée pour nous ce soir, c'était un petit peu de développer comment dans une société patriarcale, du coup, où les femmes, en tout cas reconnues socialement comme telles, s'en prennent un peu plein la figure, vivent plein de violences, et comment on peut gérer ça derrière, quelles stratégies on peut mettre en place, et du coup, est-ce qu'on fait le choix, quand on vit ça, d'avoir recours à la justice ou pas, pour quelles raisons? C'est un peu sur ces questions qu'on va se pencher ce soir.
Au début, on était parti plutôt d'un truc assez large de violence genrée. Et là, du coup, ce que vous allez entendre, c'est surtout des personnes qui ont subi des formes d'inceste ou en tout cas des violences intrafamiliales. Du coup, voilà, c'est un peu le hasard qui a voulu ça.
Et en même temps, on est consciente que c'est des enjeux très particuliers parce que ça n'a pas du tout le même sens de porter plainte contre un inconnu que porter plainte contre quelqu'un qu'on connaît et voire dont on est proche.
Deux ou trois choses sur l'inceste.
Nous sommes des personnes concernées et par ce texte, nous voulons visibiliser le caractère systémique de l'inceste, les oppressions qu'il traverse et réfléchir aux réponses à y donner.
Et alors l'autre postulat de départ de notre émission, c'est aussi qu'on est contre la justice, contre le système judiciaire, dans le sens où pour nous, c'est un outil de l'État et de la société pour maintenir des pouvoirs en place. Et c'est une manière de punir les individus qui s'écartent d'un droit chemin et qui s'écartent des normes, en fait.
Nous sommes féministes anticarcérales pour diverses raisons. Mais la principale est que le milieu pénal est profondément raciste et classiste. La justice à laquelle on demande de la répression contre les violeurs est la même justice qui condamne toujours les mêmes catégories de population, jeunes, racisés, sans papiers, de classe populaire, etc., aux mêmes punitions brutales, avec la même sévérité et toujours dans le même but, perpétuer le système. Un système d'hommes blancs, riches, solidaires entre eux et avec beaucoup de pouvoir. La justice n'est pas notre allié. Et du coup, on s'est posé un peu la question entre du coup notre féminisme et notre rapport à la justice. Comment en fait concrètement dans notre quotidien et par rapport aux violences qu'on peut subir, qu'on a pu vivre, comment en fait on deal avec ça? Comment on deal avec avec ce rapport à la justice, à aller porter plainte? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Et qu'est-ce qu'on trouve aussi pourri là-dedans? Et du coup,
L'idée, c'est pas d'avoir un regard moral ou même dogmatique sur qu'est-ce qui serait bien de faire ou qu'est-ce qui est pas bien de faire dans ces cas-là. Nous, on a recueilli des témoignages et l'idée, c'est bien de montrer qu'il y a différentes stratégies face à ça et que déjà, socialement, il n'y a pas beaucoup de possibilités qui nous sont offertes. Du coup, là, les meufs qui sont interrogées et tout, elles parlent de qu'est-ce qu'elles ont eu sous la main à un moment et comment elles ont pu se renforcer, tenter de se renforcer au maximum par rapport à ça, quoi.
Et ce, malgré le fait qu'elles aussi, elles soient critiques de l'institution judiciaire, en fait.
Soyons clairs, nous ne condamnerons jamais une personne victime d'agression qui décide de porter plainte. Nous comprenons intimement la nécessité de se sentir écoutée,
crue, comprise, en sécurité. Il ne s'agit en aucun cas de juger les stratégies individuelles de chacun, chacune, car il est évident qu'on fait comme on peut avec les outils disponibles pour affronter la situation. Par contre, nous accusons la justice, la police et la prison, en un mot l'État, de se poser comme intermédiaire obligatoire, omniprésent et totalitaire dans les affaires de violence, et de nous déposséder de nos vécus.
Parce qu'il y avait un truc hyper fort autour qui prenait en charge la définition de tout, quoi. De ce qui m'était arrivé, de ce que je devais sentir, de comment enfin, de ce qu'il fallait faire. Enfin, il y avait un peu tout ça. Et je pense que c'est à la fois un truc social, mais c'est aussi bien une manière comment fonctionne la justice. De créer en fait des définitions que tu peux pas t'approprier, en fait. Parce qu'il n'y a pas cette souplesse dedans. Moi, en fait, dans mon souvenir, il y a vachement quelque chose de... Je sais pas quoi penser. Et à un moment, je sais même plus quoi sentir. J'avais pas d'outils, en fait, pour faire face à ce genre de trucs, pour, en fait, même juste à un moment, réfléchir ce que j'aurais eu besoin, ou je sais pas quoi. Je pense que j'étais juste... J'avais pas les outils pour ça, en fait. Maintenant, j'ai plus d'outils là-dedans, mais c'est pas fini. Enfin, je veux dire, c'est un travail en cours.
Parce que moi, j'ai l'impression qu'un peu avec le système de justice, j'ai l'impression qu'il y a la notion de punition, de vengeance, de réparation et de reconnaissance. Ils fonctionnent ensemble, en fait, et ils sont inséparables. Un peu comme si la seule manière d'avoir de la reconnaissance, c'est quand l'autre est puni, que les sentiments de vengeance de la personne qui a subi des violences, ils sont contenus dans la punition. Et que la notion de réparation, eh ben en fait, il y a réparation quand il y a punition. Et qu'en fait, on peut pas. En fait, j'ai l'impression que la justice, elle ne réfléchit pas ces notions-là de manière individuelle et séparée, en fait. Et moi, je trouve ça hyper important que ces quatre notions, on puisse les distinguer les unes des autres et les approfondir. Et que, en fait, à un moment, de se rendre compte que c'est possible d'en avoir une sans avoir les autres. Et que, en fait, il peut y avoir punition sans que la personne se sente reconnue aussi, en fait.
Les luttes féministes n'ont donc aucun intérêt à aller sur le terrain punitif et ont tout intérêt à s'émanciper du système pénal. Ce n'est pas de l'angélisme. Nous savons que la violence est quotidienne, le viol banal, le silence écrasant. Nous ne le savons que trop bien. Mais nous considérons que l'État ne nous protégera pas de l'inceste, et plus généralement du patriarcat. D'une part, car la justice poursuit avant tout des délits économiques et que les prisons ont historiquement toujours servi à protéger le capitalisme et l'impérialisme. D'autre part, car il n'y aura jamais de tribunaux et de prisons assez grandes pour punir tous ces actes. Si une femme sur trois a vécu des violences dans sa vie, c'est qu'il y a bien un agresseur derrière chaque agression. Alors franchement, quel est le projet ? Les enfermer tous ? Et donc, qu'est-ce qui est le plus réaliste pour nous, féministes ? La gestion punitive des violences patriarcales ou considérer sérieusement d'autres stratégies pour y faire face ? Ces alternatives à la justice pénale existent. Elles ont été réfléchies par des communautés qui ne pouvaient se permettre de faire confiance à la police et à la justice. Communautés autochtones et noires en Amérique du Nord, communautés LGBTQIA+, etc., et qui se sont organisées concrètement pour prendre en charge, sans l'État, les violences patriarcales.
Peut-être aussi quand il y a une vraie reconnaissance de la part de l'entourage, de ce qui se passe, tout ça, ça peut aider la personne à trouver, elle, ses propres pistes de réparation, et que ça nous semble quelque chose d'assez fort.
Oui, en tout cas, ça évite que la personne qui a subi des violences, elle doute de ce qui lui est arrivé, etc. Et que du coup, ça lui permet de se sentir plus forte plutôt que d'être dans le doute et du coup de trouver des solutions. et des solutions qui peuvent mieux lui convenir, parce qu'elle choisit elle-même ce dont elle a besoin, plutôt que la justice qui va décider complètement à sa place de faire ce qu'il faut faire pour la société.
Et trouver ses propres stratégies pour se réparer, en fait, et pas attendre d'être réparé. Il est tout à fait possible, et de notre point de vue, urgent, de faire mieux que la police et la justice. En tant que féministe, on peut faire mieux, on doit faire mieux.
Rejetons de bannis, de sorcières, de fourmis, de panthères, laisse-les aboyer, toi qui rugis, qui construis ce monde, qui les enterre. Toi qui rugis, qui construis ce monde, qui les enterre.
Féministes en lutte contre l'inceste et son monde.
Vous écoutez les féministes.
En lutte contre l'inceste et son monde.
Voilà.
Sur Radio Campus 90.8 pour les 20 ans de Dégenrer.
Voilà, merci, vous avez tout dit. Bon, bah, du coup, voilà, maintenant on voulait évoquer vite fait des ressources. Voilà. On voulait vous parler de Dorothée Ducy.
Voilà, alors Dorothée Ducy, on en a parlé avant, notamment dans la définition qu'on proposait de l'inceste. Dorothée Ducy, c'est une anthropologue française. Elle a écrit Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste. Je crois qu'il était écrit en 2013. Il est d'abord passé inaperçu, puis il a été réédité à peu près à ce moment-là, autour de MeToo Inceste, en 2021. Dedans, elle théorise, elle étudie la culture de l'inceste dans les sociétés occidentales. Mmh. Moi, j'ai découvert ce texte quand il était encore que téléchargeable en PDF sur Internet, quasi introuvable, quoi. Enfin, je me suis plongée dedans et j'ai vraiment pas pu arrêter de lire. Pour moi, c'est un texte qui est trash, mais aussi nécessaire et qui met plein de mots qui a mis plein de mots sur plein de choses. Mmh. Je sais pas ce que vous avez.
Complètement. Ah. Écoute.
On avait d'autres choses à parler.
Bah, en tout cas, il y a plein d'autres ressources, des ouais. podcasts, d'autres bouquins, des brochures. Il y a vraiment, en fait, il y a quand même beaucoup de choses sur l'inceste et on va pas prendre le temps d'en parler là, mais par contre, on va les mettre en ligne en fait.
Ouais, quand ce sera rediffusé, quand vous pourrez réécouter l'émission sur radiorageuse.net, et ben en fait on partagera aussi toutes les ressources, plein de ressources qu'on a évoquées pendant l'émission et d'autres.
Et du coup, juste avant de terminer, parce que là on arrive à la fin de ce plateau, parler d'un petit truc d'actualité. Du coup, on a eu vent de ça. Il va y avoir un week-end à Marseille, qui est un week-end de lutte contre le tabou de l'inceste et pour la fierté des survivants et survivantes. Sera lieu le week-end du 22-23 avril 2023. Il y a prévu des discutes, des proches, un plateau radio, des concerts, des expos, etc. Pour citer un petit peu juste le texte de présentation, dedans c'est dit « L'inceste, c'est politique, nous sommes tous et toutes concernés ». Donc voilà, il y aura plus d'infos sur marsinfo.org.
Et voilà, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je crois que c'est le moment où on s'est dit qu'on allait conclure.
C'est ça. C'est la fin de ce plateau. Bah voilà, on espère que ça vous a plu. On espère que ce genre d'initiative et tout, ça se reproduira. Il y aura plein d'autres choses qui vont s'éminer partout et que on arrivera à sortir le tabou du silence et qu'il y aura plus de tabou et que en fait juste ça finira par arrêter d'exister quoi. Voilà.
Et que le patriarcat s'effondrera.
Voilà, c'est ça.
Grâce à des groupes d'autodéfense.
Mais d'ailleurs, il y en a d'autres qui existent. Oui. Quoi. On sait qu'il y a dans plein d'autres villes de France, au moins que ça existe. Et du coup, ça fait hyper chaud au cœur de savoir ça. Et que, voilà. Et bien, bientôt, on organisera un énorme réseau et on fera tout péter.
En tout cas, n'hésitez pas, vous voyez, ça peut être chaud au début, mais en vrai, ça fait tellement du bien à la fin. voilà, de se retrouver et d'en discuter. Et puis on va s'écouter, on va se quitter en écoutant un morceau de Sia qui s'appelle Bird Set Free. Mais juste avant, on vous propose une dernière petite lecture de texte, car Dorothy Forever.
Comment cela va-t-il ensemble ? Le pouvoir transpirant de la violence et le goût sucré du désir tout près. Ça monte de la manière la plus simple, naturellement et facilement, quand on est si jeune qu'on ne sait pas ce qui est en train d'arriver, avant de savoir pourquoi on n'est pas censé en parler. Pour moi, c'est aller ensemble quand j'avais 15 ans, et que cet homme m'a poursuivi avec une ceinture pour la peut-être millième fois, et que ma petite sœur et moi, on ne s'est pas enfui. À la place, on a attrapé des couteaux de boucher, et on l'a fait reculer dans un coin. Et oh, comment c'était ? Pour une fois, on lui a donné des sueurs froides avec la menace de ce qu'on lui ferait s'il nous touchait. Et oh, cette joie, le pouvoir de dire « Non, fils de pute, cette fois non !» Sa peur était sexuelle et merveilleuse, haineuse et effrayante, mais fantastique, comme un orgasme. Comme attendre le temps d'une vie entière et jouir enfin. Je sais, je ne suis pas censée parler de sexe comme ça, pas en parlant d'armes, de haine ou de violence, et jamais pour les mettre dans le contexte du désir sexuel. Est-ce que c'est masculin ? Est-ce que c'est méchant ? Est-ce que ça t'a plu ? Je ne suis pas censée parler de comment la colère, ça peut être bon, juste, justifié et complètement satisfaisant. Même à 17 ans, quand j'ai appris à tirer au fusil, j'ai su ne rien dire à personne de ce que j'avais vu et senti quand j'avais pointé cette arme. À chaque fois que je visais la cible, c'était son cœur que je voyais, son image à lui avec ses yeux qui louchaient et son cœur de pierre. Je savais que les choses que je n'avais pas le droit de dire étaient aussi des choses auxquelles je n'avais pas envie de penser. La première fois que j'ai fait l'amour avec une femme, j'ai su que je pouvais pleurer, mais qu'il ne fallait pas dire pourquoi. J'ai pleuré parce qu'elle sentait comme lui, le souvenir de lui. Elle sentait l'urgence et la sueur. Elle ne devait pas savoir que ce n'était pas elle qui me faisait pleurer. Respirer en elle a déclenché en moi à la fois du désir et de la haine. Et de ces deux sentiments, celui auquel je n'osais pas penser, c'était le désir. Le sexe avec elle est devenu une manière de le jeter hors de moi, de faire la paix avec la violence de mon propre désir. Je sais. Je ne suis pas censée parler de combien de temps ça m'a pris pour l'évacuer de mon corps. Sur combien de cibles j'ai tiré. Avec combien de femmes j'ai couché, combien de fois je suis restée assise jusqu'à l'aube en me demandant si j'allais changer un jour. Si j'allais changer un jour. Si un moment viendrait dans ma vie où les désirs ne résonneraient plus avec la fureur. Deux ou trois choses dont je suis sûre, et l'une d'elles est que le changement, quand il arrive, fissure tout.
Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost a line, have been crossed. Had a voice, but I could not talk. You'd help me down. I struggled to fly now. Oh, but there's a scream inside. We are dried out. We hold on so tight. Alive. Oh, it eats us alive. Oh, yes, there's a swim inside. We are dried out. We hold on so tight. But I don't wanna die, no. I don't wanna die, yeah. And I don't care if I sing or pee.
but I